بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شيخون الإسلام chaque fois qu'on a la possibilité de s'asseoir de ce genre d'assemblée on doit renouveler notre intention que notre niyat soit vraiment notre objectif unique si on s'assoit c'est vraiment d'écouter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'essayer de comprendre qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit de le Coran afin que lorsque nous lisons le Coran et lorsque nous accomplissons notre salat nous avons une certaine compréhension de ce que nous lisons. Nous ne sommes pas comme des personnes qui lisent les mêmes sourates depuis leur naissance jusqu'à leur mort sans jamais comprendre qu'est-ce qu'Allah ta'ala dit de le Coran. Sachant que le Coran, c'est le plus grand livre qu'Allah a révélé. C'est le plus grand mu'ajiza. C'est le plus grand miracle qu'un prophète ait pu amener sur la terre. Un livre qui a été révélé il y a 16 siècles et qui, dont les paroles ont été ordonnées par Allah. Les paroles ont été ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala depuis la création des cieux et de la terre, bien avant même. Et qu'Allah a décidé que ce Coran reste intact jusqu'à la fin des temps. Et que réellement, après 1500, 1600 années, le Coran est le même. C'est donc un livre exceptionnel. Son contenu est inégalable. Jamais quelqu'un ne pourrait écrire un homme, ou alors un djinn, ou alors l'humanité entière, il se réunissait. Jamais ne pourrait ramener un verset comparable au Coran, tellement dans chaque parole d'Allah, il y a une quantité de ilm, de connaissances exceptionnelles. D'ailleurs, si depuis, alhamdulillah, je ne sais combien de temps, Allah donne tawfiq de faire, d'essayer de parler un peu du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous en sommes à la uqsimu bihal al-balad, alors que, je ne sais pas moi, si on avait pris les poésies de Lamartine, ou on avait pris des textes de Victor Hugo, alors imaginez en 3 ans, ben, on aurait déjà terminé tout ce que cette personne avait écrit. Même si on avait pris, allez, qui c'est qui a écrit le plus de livres de la littérature française? Allez, on va prendre quelqu'un comme, même Émile Zola, allez, par exemple, vous voyez, on va, en un an, c'est suffisant pour faire le commentaire de texte de tout ce qu'il a écrit. D'accord? Alors que pour le Coran, pour le tafsir du Coran, en 3 ans à peu près, on n'a même pas fait la moitié d'un sifara. Et encore, dans beaucoup de cas, on abrège, on essaye d'être le plus concis possible. Et ces derniers temps, on essaye d'être un peu plus concis encore pour essayer d'aller un peu plus vite. Mais on voit que le Coran, c'est vraiment un mu'ajiza. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et bien malheureux est le musulman qui se croit être de le dîn comme il le faut, alors qu'il n'a aucun attachement pour le Coran. Bien malheureux est ce musulman qui a appris le Coran par cœur et qui se vante ou qui est tout simplement content, il y a de quoi être content, de détenir le Coran de son cœur et qui est content de faire des beaux tarawih où tout le monde dit que vous lisez bien, mais que cette personne ne s'est jamais posé la question « Qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur ?»« Allah met le Coran dans mon cœur, mais c'est quoi ça ?»« C'est quoi ces 600, 700, 800 pages ?»« Est-ce que je me suis posé la question, moi, une fois, qu'est-ce que Allah dit dans un verset du Coran ?» Bien malheureux. Et ce musulman qui se limite aux choses palpables. Et c'est ça le gros problème de notre société. Qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas dans le dîn ? On s'est fixé des objectifs. Hein, si j'ai un vêtement... identique à la sunna, si je porte la barbe, si j'ai le turban, si je suis là dans la salade régulier, etc., etc., le hajj, j'y vais, etc., c'est beau, j'ai rempli ma mission. Alors qu'il y a beaucoup de musulmans qui font tout ça, mais ce sont là des constructions sans fondation, malheureusement. Il y a beaucoup de musulmans qui, d'apparence, ils dégagent l'impression d'être des musulmans vraiment dans le sirat al-mustaqim, dans le droit chemin. Mais si on va, ben c'est pas notre travail, c'est pas d'aller regarder dans la vie des gens, mais si on pouvait analyser la manière que ces personnes travaillent, les relations qu'ils ont dans leur famille, avec leur épouse, leurs enfants, leurs parents, on se rend compte que ben, il n'y a pas d'islam. Quand le prophète sallam, il donne deux recettes, deux méthodes pour accéder au paradis. Il dit que fais le qiyam ou l'ayl. Bon, ça c'est quelque chose, ça peut-être il y en a qui le font, alhamdulillah, et le prophète dit it'am ou ta'am. Ikram ta'am, c'est quoi? Donner à manger aux gens. Donner aux gens, qui c'est qui fait ikram de son prochain? On est prêt à donner 1000 euros dans ma masjid au mois de Ramadan, mais si on voit quelqu'un de démuni, l'amener chez moi, lui, ah non. Mange-moi manger, ah non. Si le manger est resté le lendemain, peut-être que je lui donnerai, mais autrement, non. Ça veut dire que intérieurement, on n'a pas réellement compris
le ma'ani de l'islam. Quand on voit les muhajirin et les ansar, quelle était leur entente, comment il y avait la solidarité entre les musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit bien comprendre qu'aucun islam, aucun iman ne pourra être complet dans les cœurs tant qu'il n'y aura pas muhabba, tant qu'il n'y aura pas ijtima' al-qulub. Et de nos jours, il y a 20 personnes, enfin, ce n'est pas votre cas, mais dans une société où il y a 50 personnes, ce sont là 50 ennemis. Chacun a quelque chose à reprocher à son prochain, chaque individu a quelque chose à reprocher à son prochain, et chacun se méfie de son prochain. Les cœurs ne sont pas unis. Et le prophète a dit quoi, il faut faire Afshu salam abaynakum, répandez le salam. Si vous connaissez la personne, cette salam, vous ne le connaissez pas, faites salam quand même, ça rapproche les cœurs. Nous avons beaucoup d'actions, beaucoup d'ibadat, de belles mosquées, de belles madrasas, de belles structures, mais malheureusement les sifat de iman ne sont pas dans les cœurs. Hein, on n'est pas là juste pour critiquer, c'est un constat. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de travailler ce qui nous manque intérieurement, d'amener en nous les véritables valeurs de muhabba, d'entente, de solidarité, de fraternité entre les musulmans. Ça doit être présent dans nos cœurs, comme c'était présent dans le cœur des sahaba, radiallahu anhum ajma'in, et essayer de développer la taqwa Allah. Et ça nous manque, je vous assure. À moi en premier, nous sommes prêts, ça on l'avait expliqué une fois, nous sommes prêts, on nous dit, la masjid a besoin d'argent, nous donne. Voilà, il faut aller faire hajj obligatoire, on va faire hajj. Il faut aller jamat, nous va aller jamat. Il faut faire namaz 5 fois par jour, nous fait. On va faire. Mais lorsqu'on dit ça, il ne faut pas faire, n'arrêtez pas. Faire les bonnes actions, on fait. Mais lorsqu'il faut reculer face à notre charwa, on ne peut pas. Lorsqu'il m'y voit une fille passant le chemin, ne me dites pas de ne pas regarder, ça c'est pas possible. Diamant, elle est liée à courant toute la nuit, oui. Mais Diamant, regarde pas Tantina, attends, il a vu ça, la qualité, mon frère. Vous l'avez payé, ça. Il ne peut pas, il ne peut pas. Ça c'est grave, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand. C'est quoi ta croix? Ta croix, c'est quoi? C'est que le musulman ne se met jamais dans une situation où il attire la colère d'Allah. Comment s'attirer la colère d'Allah? Ne pas faire, excusez-moi les exemples, parfois je pousse un peu. Je donne parfois le discours avec les élèves, et on a du mal à se rappeler qu'on est dans la masjid avec des adultes, excusez-moi. La taqwa Allah, comment on s'attire la colère d'Allah quand on ne fait pas ce qu'Allah a demandé de faire? Ne pas faire salat. Mais également quand Allah dit, ne passez pas à gauche, si on fait le premier pas vers la gauche, on est dans le haram, on est dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes ils sont prêts à faire des bonnes actions, mais concernant le contrôle des regards, ça. Et deuxième point, concernant l'argent. Quand on touche à le foulous, la caillasse, là n'a plus de camarade. Quand il est question d'avoir une transaction, même si ce n'est pas licite, mais si ça remplit les poches, wallahi, Allah nous protège, nous pardonne, les 80% des gens, ils sont prêts, ils foncent. Combien de personnes, ils sont prêts à être premier ça? Mais lorsqu'on dit qu'attention, dans telle transaction, on a l'intérêt, les haram. Il dit non, ça n'a pas l'intérêt, ça. J'ai discuté avec quelqu'un, la fois, il dit que oui, il m'a dit que non, on n'appelle plus ça de l'intérêt. Ça, c'est quand vous avez placé de l'argent dans une banque et qu'il vous donne l'intérêt. C'est pas l'intérêt, ça, c'est les bénéfices. Les bénéfices. Des peuples avant nous, ils avaient dit pareil. Ils avaient changé l'intérêt en d'autres noms. Tout comme à la fin des temps, il y aura des boissons alcoolisées qu'on appellera par d'autres noms et qu'on va boire. Il dit non, ça, c'est pas de l'alcool, c'est telle chose. Vraiment, mes chers frères, développer la taqwa, c'est ça. On fait les bonnes actions. Mais apprendre, c'est quoi? Se retenir quand Allah dit que c'est haram. Ne mangez pas de ça. Ne empruntez pas de l'argent de telle manière. On ne le fait pas. Là, on va développer la taqwa. Là, on aura qualité comme les sahaba. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Développer la taqwa. Développer la muhabba, l'amour qu'il y a dans les cœurs. Et essayons de regarder dans la famille. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que nos enfants, quand ils vont à l'école, ils ont une tenue correcte? Est-ce que moi en tant que papa, lorsque ma fille de 15 ans, elle va au collège, est-ce que quand elle quitte la maison, je lui dis, viens Fatima, je regarde comment tu es habillée. Et est-ce que je suis prêt à dire que pourquoi tu as mis un pantalon un peu collant, pourquoi ton t-shirt, ton machin est décolleté, etc. J'assume mon rôle de père dans l'éducation des enfants, et parmi les facettes de l'éducation, c'est enseigner à mes enfants la pudeur. Ça, il y a beaucoup de manquements. Il y a peut-être des gens qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi, enfin, à faire beaucoup de choses de le dire, mais ça ne dérange pas que leurs filles vont à la piscine. Écoutez, on était au lycée, hein. Il ne se dérange pas que leurs filles vont à la piscine, ils se baignent. Est-ce que c'est normal? Où est le rira? Rira, c'est quoi? C'est qu'on ne veut pas que quelqu'un qui n'est pas mahram voit ce qui nous est propre, ce qui nous est, ce qui fait partie de nos aura. Ça, c'est le rira. Ça, malheureusement, ça disparaît. Regardons du côté de nos parents, de la relation, est-ce qu'il n'y a pas des manquements? Il y avait une personne qui disait récemment, une personne qui est assistante sociale disait, si vous saviez dans la communauté musulmane combien de cas de familles religieuses qui déposent leurs parents dans des maisons de retraite. Cette personne me dit une fois, j'ai convoqué, il y avait, je ne sais pas si c'était un vieil homme ou une vieille femme, qui avait des gros problèmes, était avec nous à l'hôpital, et j'ai convoqué les enfants. Et qu'est-ce que je vois? Cette personne me dit, monsieur, j'ai vu des hommes barbus et des femmes voilées. J'ai vu des hommes barbus et des femmes voilées. C'était les enfants de ce vieil homme ou de cette vieille femme. Il dit que voilà, ben, vos parents et votre maman, ben, votre papa, il y a tel problème, il faut vous en occuper. Elle dit, vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit, monsieur? Ils m'ont dit que ça, c'est notre parent, c'est pas votre problème, c'est notre problème. Et ces gens-là, ils se croient être dans le dîn, là. Ils se croient que parce que le monsieur, il a la barbe, le madame, il met son châle, ou même s'il met son châle, allez, même si elle se voile comme il le faut, khalas. Mais, il ne connaît pas qu'Allah ta'a dit, wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyah, wa bil walidayni ihsana. Immédiatement, après adorer Allah, c'est-à-dire le droit d'Allah, Allah, il parle du droit des parents. Où est-ce qu'on est, là? On se croit quoi? On croit qu'on va entrer dans le paradis juste parce que on a la barbe et que nos femmes se couvrent? Et si intérieurement nos parents sont maltraités, ou alors nos parents, non, on ne fait pas leur khidmat, ou nos enfants, ils font tout et n'importe quoi et qu'on les laisse. Vous croyez qu'on va rentrer dans le jannat, Allahu Akbar, je suis à des bimbam, de nous, on va rentrer dans le paradis? C'est pas comme ça les choses. Et ne cherchons plus si entre nous les sahaba, il y a un fossé maintenant. Si entre nous les sahaba, on ne peut même pas comparer, il n'y a pas un poisson de point commun. Le taqwa, notre taqwa, c'est deux choses différentes. Donc, pourquoi on est en train de parler de tout ça? Donc on comprenne bien que c'est vrai qu'alhamdulillah, dans la Réunion par rapport à d'autres endroits, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais regardez cet éloignement que nous avons du Coran. Ça c'est assistant. Dans une jamaat de 100 personnes, je ne sais pas, est-ce que sur 100 personnes, on peut trouver une personne qui régulièrement va lire le tafsir en français ou le Coran en français, qui a la recherche de ce qu'Allah dit dans le Coran? Mais ce Coran-là, ça c'est notre batterie ça. Parce qu'on dit que je vous ai dit ces deux choses. Si vous approchez, vous ne serez jamais égaré. Le Coran et la Sunna. Bien que notre survie, la survie de notre iman, dépend de notre attachement, de notre relation avec le Coran. Mais si notre relation est superficielle, on lit le Coran comme si on lit un livre en anglais ou une notice de machine en allemand. Ça nous apporte quoi? Vous achetez une machine à laver. Voilà une machine un peu compliquée. Une machine a fait un café ou je ne sais pas quoi. Et que la notice est en allemand. Est-ce que vous allez lire Ich brenne, je branche. Est-ce que c'est suffisant? Elle dit, ben non, ben, que c'est? Vous allez voir quelqu'un qui parle allemand. Et prendre un dictionnaire. Quoi il veut dire? Mais ma besoin, c'est fonctionne la machine là. Quand est-ce que ça va boire mon cappuccino? Quand est-ce que je fais mes crêpes, mes gaufres ou je ne sais quoi? Si la notice est en allemand, est-ce que si vous lisez, vous allez boire votre café, vous allez avoir vos gaufres, vos crêpes ou autre chose? Mais non! Ce Coran, il vous dit comment il faut vivre. Et Aïcha a dit que le Prophète, c'était le Coran vivant. Mais à nous de comprendre qu'est-ce qu'Allah dit de ce Coran. À nous de comprendre qu'est-ce que Allah appelle le Coran. Et personne ne peut se dire que ça concerne les pécheurs, ça ne me concerne pas. Un verset qu'on va essayer de voir si on a le temps. Hein? Lorsqu'Allah Ta'ala dit, يقول أن أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Ça peut concerner tout le monde. Musulmans, munafiques, pécheurs, pieux, premier saf, jamais de saf, ça concerne tout le monde. Et ça, c'est important qu'on comprenne. Quand Allah il vous donne, le problème c'est quoi? C'est quand des gens ils ont beaucoup de bienfaits, ils ont l'impression d'être invincibles. Ça, c'est le sens du verset. Il y a des gens lorsqu'ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont en bonne santé, ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'il faut. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Ils ont l'impression qu'ils ont tout et que rien ne peut les arrêter. Je suis un fonceur. Moi, je vais droit devant. Je ne regarde pas à droite, à gauche. Je suis un winner. Tu es un winner. Et dans ton objectif-là, tu as l'impression que personne ne peut t'arrêter. Et qu'il n'y a pas de robe au-dessus de toi qui te contrôle. Et que tout ce que tu as eu là, tu as eu par ton intelligence. Ça, c'est tes diplômes, ça. Ça, c'est ta force. C'est toi qui as gagné. Et combien de personnes de nos jours, hein, nous avons grandement besoin de ces leçons de tawadu, d'humilité qu'Allah Ta'ala nous enseigne dans chaque verset du Coran. Alors ça, c'était 15 minutes, mais c'est toujours important, mes chers frères, un petit rappel. Il y a des manquements, chacun d'entre nous, moi en premier, à nous de déceler où sont ces manquements et de comprendre qu'on a besoin d'avancer dans le dîn. Si quelqu'un il se dit, mais fais mon namaz, mon dhikrullah, mon Coran, basta. C'est vrai que, yani, officiellement, vous avez accompli vos devoirs. Mais vous ne voulez pas vous rapprocher d'Allah? Vous ne voulez pas que votre iman augmente? Est-ce que nous n'avons pas cet objectif d'avoir un degré plus haut dans le paradis? Est-ce qu'intérieurement, on n'a pas l'envie que j'aimerais que le jour de Qiyamah, je sois ressuscité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Abu Bakr, avec Omar, Uthman, Ali, entrer dans le paradis avec eux? C'est comme une personne, hein, quelqu'un qui a eu le bac, dit bon, j'ai mon bac, mission accomplie. Par rapport à l'éducation nationale, l'objectif est atteint, vous avez votre baccalauréat. Mais vous n'avez pas envie de travailler. Est-ce que vous voulez travailler dans un magasin, 800 euros, 900 euros par mois, quelque chose de difficile? Est-ce que vous n'avez pas envie d'avoir un diplôme, d'avoir tel grade, telle fonction? Dans le dunya, on a beaucoup d'objectifs. Mais pourquoi est-ce que dans le din, on se contente du strict minimum? Pourquoi dans le din, nous contentons du SMIC? Pourquoi dans le din, on ne va pas faire une manifestation pour avoir 200 nekis en plus par mois? Les 200 euros, on voudra les avoir par mois. Mais 200 nekis, 200 bonnes actions plus par mois, 200 grades supérieurs dans le paradis, ça ne nous intéresse pas, on dirait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre iman du rêve n'est pas comme il faut. Peut-être que le paradis, on n'y croit même pas. Moi, je crains, je ne parle pas pour les gens qui sont là, c'est des paroles générales. J'essaie de comprendre parfois qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas d'envie d'aller dans le din. Contrairement aux sahaba qui, n'importe quelle seconde de leur vie, ils fonçaient, ils voulaient progresser dans la religion. Je crains parfois que nous ne croyons plus au paradis et que nous ne croyons même plus à l'enfer. Nous y croyons comme on croit dans les histoires, dans les livres. Mais est-ce que nous sommes comme ces sahaba? Ce sahaba qui le soit, il ne dort pas parce qu'il pense au jahannam, il a peur, il n'arrive pas à dormir. Si on regarde un film d'horreur, on va regarder, c'est dépassé, c'est vieux, on va regarder Freddy, on va regarder Halloween ou je ne sais quoi, vendredi 13. Ah, ce soir, nous dort pas, il fait peur, mais après, vous gars, ils viennent, ils sont sages, c'est pas mal. Quelque chose qu'on connaît pertinemment que c'est faux, ça a fait un effet sur nos cœurs. Mais Sahaba, ils entendaient les paroles sur le Jahannam, la wasf, description du Jahannam, ils ne pouvaient pas dormir le soir. C'est-à-dire qu'Iman bin Raif, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus besoin de voir là. Si le prophète l'a dit, ils croient Dieu comme fer. Et ils ont yakin dessus. Ils comprennent c'est quoi ce feu milan qui est devenu blanc, rouge, et rouge, blanc, ensuite noir. Ils ont peur de ce feu. Et quand Allah va dire au Coran, « Hu anfusakum ahlikum nara » Protégez-vous, protégez vos familles du feu. Mais ils comprennent qu'il faut mener sa famille dans le dîn. Il faut faire en sorte que ma famille, ma femme, mes parents, mes enfants, mes petits-enfants, etc., mes frères et sœurs, ils restent dans le dîn. Parce que s'ils sortent du surat al-mustaqim, là-haut ils vont goûter à ce feu. Et moi je ne veux pas qu'ils soient dans cette difficulté le jour du akhira. Wallahi ta'ala n'tawfiq. Mais on entend tellement de choses ces derniers temps, a'oudhu billah, et moi ça me révolte de voir ce sentiment d'autosuffisance. Ça c'est un gros problème. Et Shaitan il est en train de nous avoir par les apparences. À partir du moment, je le répète, qu'on est barbu, qu'on est Hafez Quran, que notre madame porte châle et tout, Shaitan, il veut nous faire croire qu'on est dans le droit. C'est vrai qu'alhamdulillah, c'est bien, mais c'est comme si qu'il n'y a plus besoin de faire une analyse de sa vie. Alors que si on creuse, il y a tellement de péchés qui nous font couler. Il y a tellement de saleté dans le cœur que le prophète dit que la jalousie, par exemple, la jalousie, ça brûle les bonnes actions. Comme le feu brûle le bois. Est-ce que je me suis déjà posé la question, est-ce que j'ai ça en moi? Et que si je l'ai, ben attention, peut-être que tout ça, Aman, mi fait là, ça disparaît à cause de ça, à moi de faire un travail dessus, mon tazkiya pour enlever ça, etc., etc. Le iman, ça se travaille, ça se protège, ça s'entretient, et c'est fait pour être propulsé, pour être augmenté. A'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين 19 minutes encore 15 minutes inshallah. Alors la dernière fois on avait commencé non je jure par cette cité et on a vu que Allah Ta'ala il fut le qasam par la ville Mubarak, la ville sainte de Makkah al-Mukarrama. Et on avait expliqué la dernière fois quelle était la place de Makkah dans l'islam et comment Allah Ta'ala aime Makkah et comment le Prophète sallam aimait Makkah al-Mukarrama, comment les Sahaba, après l'immigration, ils étaient attristés d'avoir quitté Makkah. Et ensuite, il a fallu que le Prophète sallam fasse doua pour que cet amour soit pas remplacé, mais que l'amour pour Madina recouvre l'amour pour Makkah, ce qui fait qu'aucun Sahaba n'est retourné à Makkah après l'immigration, le cœur est resté attaché à la ville Mubarak de Madina Munawwara. Mais on a vu également que les gens du Ma'ala sont les deuxièmes populations de ressusciter le jour de la résurrection, juste après les gens de Al-Baqi', c'est-à-dire les gens qui sont enterrés à Makkah, ils seront ressuscités avec le prophète sallam, juste après les gens de Al-Baqi' qui sont enterrés à Madina Munawwara. Et on avait longuement expliqué les vertus de la ville sainte de Makkah al-Mukarrama, et que c'est une ville protégée par Allah. Et lorsque l'armée d'Abraha voulait attaquer Makkah, on a vu ça l'histoire d'Ashab al-Fil, comment Allah Ta'ala a protégé la Kaaba, Allah Ta'ala a toujours protégé la ville de Makkah, comme on avait vu également dans les Ilaf et Quraysh, Allah a protégé les Quraysh de la crainte, de l'angoisse. Il y a toujours eu la sécurité, et et d'autres versets encore, celui qui va de cet endroit, qui rentre, cette personne est en paix. On a vu que dans le peuple de Salih, dans l'histoire de le peuple de Thamoud avec le prophète Salih, pardon, dans une version, lorsque ils ont égorgé la chamelle, hein, Allah Ta'ala a envoyé la malédiction qui a touché chaque personne de cette population, sauf une personne, il y avait le nom, j'ai oublié son nom, cette personne à ce moment était dans le haram. Et lorsqu'elle est, donc elle a été protégée de la punition d'Allah, parce qu'elle était dans l'enceinte du haram sharif. Lorsqu'elle a quitté le haram sharif, c'est-à-dire bien après, là le azab l'a touché immédiatement. C'est-à-dire qu'on comprend que cet endroit, quand on parle d'endroit sacré, c'est juste pour Qiyamah. Et on avait vu également quel est l'historique du haram sharif avec l'époque de Adam a.s., avec l'époque de la pierre noire, al-Hajar al-Aswad. Donc ça c'est un petit récapitulatif de ce qu'on avait expliqué la dernière fois. On avait vu également... je ne sais pas si on avait précisé ça, hein, que Allah seul a le droit de faire qasam par une créature. Quand Allah fait qasam par la Mecque, la oksimu biha, l'al-balad, nous en tant que musulmans, êtres humains, on ne peut faire qasam que par Allah. C'est-à-dire que je jure par Allah, ou je jure par le clément, le rahman, le rahim, mais on n'a pas le droit de dire je jure par telle chose. Et bon, à La Réunion, il n'y a pas trop ça, mais dans les populations en métropole, il y en a beaucoup qui disent je jure sur la tête de ma mère et tout et tout. Même chez les créoles, parfois, ils disent sur la tête de mon maman et tout, tout ça. Ça, on n'a pas le droit, ça. Ça, c'est des paroles, hein, ça peut s'apparenter au shirk de faire qasam par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car, parce qu'on avait dit ça, mais le hadith, on ne l'avait pas cité, le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Man halafa bi ghayrillahi faqad kafara aw ashrak » Celui qui jure par autre qu'Allah, il a fait le kufr ou alors il a fait le shirk. Taïb, la sourate al-afiyah. Ensuite, Allah ta'ala dit « Wa anta hillum bi hadha al-balad » Et toi, tu es un résident dans cette cité. Alors, certains commentateurs disent que Allah Ta'ala, il montre l'aspect encore plus honorifique de Makkah al-Mukarrama par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y réside. Par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réside dans cette ville sainte de Makkah. En plus de ses vertus, il abrite la meilleure des créatures, Ashraf al-Makhlouqat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un deuxième commentaire qu'on retrouve un peu plus dans les autres livres de tafsir. Ils disent que ce verset concerne un événement. C'est quoi cet événement? C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis Makkah, ce qu'on appelle l'Aam al-Fadh. Lorsque Makkah est revenue aux mains des musulmans, alors Allah subhanahu wa ta'ala a rendu Makkah halal pour le prophète sallallahu pendant quelques temps. Pendant un laps de temps, le caractère sacré de Makkah a été mis, on pourrait dire, entre parenthèses. C'est-à-dire, normalement, Makkah, il n'y a pas de guerre, on n'a pas le droit de se battre. Mais comme les musulmans devaient reprendre Makkah, donc la ville sainte est devenue halal, hein, le caractère sacré a été mis un peu entre parenthèses pour le prophète sallam pour ce laps de temps. Et le prophète m'a dit وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ et son caractère sacré ensuite est revenu immédiatement comme cela était auparavant. Mais malgré ça, on n'a pas le droit de monter une armée pour aller à Makkah. Mais là, Allah Ta'ala l'a autorisé uniquement pour le prophète sallam pour cette circonstance. Mais malgré ça, les mu'arrikhin, les historiens, ils soulignent que pour la conquête de Makkah, il n'y a pas eu de sang versé. Il y a dû avoir une ou deux personnes avec lesquelles il y a eu des accrochages, mais ce n'était pas une guerre. Et là, c'est un message fort qu'on lance à ceux qui disent, hein, vous savez, ce qu'ils disent tout le temps, ce leitmotiv que l'islam s'est propagé avec l'épée et tout. Alors si vraiment notre religion s'était propagée avec l'épée, ben, pour conquérir la capitale de l'islam, il aurait fallu beaucoup de sabres et beaucoup de sang. Alors qu'il n'y a pas eu une bataille, il n'y a pas eu une guerre, il n'y a pas eu une armée qui a affronté une autre. lors de la conquête de Mecca. Et pareil pour la deuxième ville sainte de Medina. Est-ce que les musulmans, ils ont eu Medina avec une épée? Non, c'est avec un sahaba, Moussa bin Umair, qui a enseigné le Coran aux gens de Medina et qui a fait da'wat infiradi, porte à porte, avec les, individuellement avec les zu'ama, avec les chefs de tribus, qui ont accepté un après l'autre l'islam. Et le travail a commencé avec Moussa bin Umair, il y avait Sa'd ibn Ma'ad, et il y avait Usayd ibn Khudayr, radiallahu anhum. Hein, ces trois personnes-là, ils ont fait un travail sur les gens de manière générale, globale, et sur les zu'ama, les nobles, à titre individuel, et ils ont écouté le Coran, ils ont fait la da'wah, ils ont tous accepté l'islam. Il n'y a pas eu une personne qui a été tuée pour que la ville de Medina devienne une ville musulmane. Ça, c'est une grande leçon pour ces gens qui disent que, ben voilà, on a tout eu avec les pétroïbes. Et on voit également, concernant Makkatul Mukarrama, quand après la conquête de Makkah, le prophète sallam, il pointait les idoles du doigt, avec son asa, et les idoles se cassaient. Il y avait à peu près combien? 360 idoles dans la ville de Makkatul Mukarrama. Là, on voit le Qudratullah, la puissance d'Allah et le pouvoir d'Allah. Un endroit qui était la capitale des idoles, où il y avait 360 idoles, ou même les Mécois, ou même les Arabes, lorsqu'ils venaient pour le Hajj, ils vénéraient ces idoles également. Cet endroit, le Asima, la capitale de l'idolâtrie, 360 idoles, je le rappelle, devient la capitale du monothéisme. Elle devient le Qibla des musulmans, elle devient le Asima du Tawhid. Allah Ta'ala est capable de tout, quand il veut, avec ou sans intermédiaire. En quelques secondes, Allah Ta'ala change Makkah, qui était le BSO des idoles, et il devient le BSO du monothéisme d'Allah, du monothéisme de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est un peu rapide, on va être un peu plus bref. Ensuite Allah ta'ala dit, donc ça c'était wa anta hillum bihada al-balad wa walidin wa ma walad. Allah ta'ala il fait qassam maintenant, après avoir fait qassam par la meilleure des villes, par Makkatul Mukarrama. Allah Ta'ala cite en plus pour sallam qui est à cet endroit maintenant, Allah, ou qui a été de cet endroit pour l'âme ou le fait. Maintenant Allah Ta'ala il fait le qasam par, selon cette commentaire du Coran, par Hazrat Adam alayhi salam, c'est-à-dire Abu al-Bashar. Ibn Kathir il dit que, regardez la relation, Allah Ta'ala il fait qasam par Umm al-Qura, par la mère des villes, et ensuite Allah Ta'ala il fait le qasam par Abu al-Bashar, par le père de tous les créatures. Donc c'est du symbolisme. Et certains commentateurs disent que le qasam est plus large, ça englobe toute créature qui enfante. Walid et walad, c'est-à-dire père, c'est-à-dire enfanteur et enfanté. Et disent que ça c'est également un signe de la qudrat d'Allah. Hein, Allah, il veut, c'est-à-dire une façon, ils disent que ça aussi on voit que dans la naissance d'enfants, la naissance d'animaux, etc., tout cela, on voit la qudrat d'Allah, Allah qui à partir du néant, il peut tirer une créature vivante, il lui donne as-sam'u wal-basar, etc., la vue, l'ouïe, la parole, la compréhension, tout ça, ce sont des signes de la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Taïb, on va être un peu plus rapide. Laqad khalaqna l'insana fi kabad. Et je pense qu'on s'arrêtera avec ce verset, parce que ce verset est tellement riche. Laqad khalaqna l'insana fi kabad. Un des commentaires qui revient le plus pour ce verset qu'on lit la traduction, laqad khalaqna l'insana fi kabad, nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. Alors la majorité des commentateurs du Coran disent que dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il annonce que la vie de l'homme n'est pas facile. La vie d'un homme sur cette terre passe de difficulté en difficulté. C'est-à-dire que jamais un homme ne vivra heureux du premier jour jusqu'au dernier jour. Alors d'autres commentateurs disent que c'est dans le sens plus large. Ce n'est pas uniquement dans la vie de ce dunya, c'est depuis la naissance. Pour un bébé, la naissance, c'est un événement difficile. C'est quitter le monde du ventre de la mère qui est protégée pour être exposé au monde réel. Et puis la séparation, le sevrage après l'allaitement, l'enfant ne peut plus boire avec sa maman. Ça aussi, c'est une difficulté pour le bébé à son niveau. Et puis viendra la période où cet enfant va grandir, il deviendra autonome. Et quand cet enfant deviendra un homme, il va apprendre c'est quoi faire des efforts pour avoir son rosier, pour avoir sa subsistance. Donc ils disent que, contrairement donc au paradis, la vie de ce dunya, c'est une vie remplie d'épreuves et remplie de difficultés. S'il n'y a pas d'épreuves, il y a au moins des difficultés. Difficultés qu'il y a dans la vie du dunya pour vivre, survivre, même de nos gens parlent même de survivre. Et en plus des difficultés pour la pratique de sa religion, avec l'ambiance de fitna, avec toutes les difficultés qu'il y a, toutes ces notions peuvent être rattachées au sens de ce verset qu'une vie de lutte pour le dunya, mais également, selon certains ulama, pour maintenir son iman. Alors, parmi donc ces difficultés que l'être humain peut voir ou il peut subir durant sa vie, il y a les maladies. Ce qu'il n'y a pas dans le paradis, il y a uniquement ce dunya. Il y a les moments de tristesse, les mauvaises nouvelles, les décès des proches, ou alors des problèmes des enfants qui sont malades, ou alors d'autres choses encore. Et un des problèmes qu'on rencontre le plus maintenant, combien de personnes, malheureusement, on voit hein, dans la communauté musulmane, des personnes qui perdent leurs biens, dont les ménages sont en train de se casser, ou qui ont des problèmes avec leurs enfants, ils ont des problèmes de santé, tout ça à cause de la méchanceté d'autres personnes. De quelle manière ? Je suis jaloux du frère, ben je vais voir un sahir, un sorcier, voilà, j'aimerais qu'il perde son travail. Celui-là, j'aimerais qu'il casse avec son épouse. Celui-là, il est trop heureux en famille, j'aimerais qu'il y ait une cassure dans sa famille, qu'il y ait la discorde. J'aimerais que celui-là, il est trop content, j'aimerais qu'il soit malade en PM, etc., etc. Et combien de personnes sont éprouvées par ce genre de difficultés ? Tout ça, ça fait partie des ibtila, des difficultés de ce dunya. Et lorsque ce genre de mal touche quelqu'un, alors il y a deux choses. Il y a le taqdir, c'est qu'Allah a bien voulu que ce mal touche cette personne, car autrement, si Allah ne voulait pas, ce mal n'aurait pas touché la personne. Et il y a également quelque chose pour enfoncer, il y a un asbab pour détruire la personne qui commandite le mal. Parce que si moi je suis jaloux, déjà je sais c'est quoi les conséquences de la jalousie, ça détruit une bonne action, mais si je reste de ce péché, je vais voir quelqu'un pour faire du mal, ben je vais faire le shirk, je vais faire le kufr, donc je suis en train de m'enfoncer. En même temps, il y a quelqu'un qui est en train de subir les difficultés, mais en même temps, il y a quelqu'un qui commandite les difficultés, qui ordonne les difficultés, mais elle est en train de sombrer dans le jahannam. Et ça, c'est un message que j'aimerais faire passer. Malheureusement, il y a beaucoup de musulmans qui ne comprennent pas, hein, pour leur commerce ou pour les relations de couple. Même, on appelle ça le retour de l'être aimé, même. Pour n'importe quoi, ils sont prêts à aller voir des gens pour faire des gris-gris, pour arranger des choses. Sachez, mes chers frères et sœurs, que ça, c'est le shirk et c'est du kufr. Enfin, ça m'a dit que la personne hein, qui va voir ce genre de personne, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, il a fait kufr. Imaginez quelqu'un qui a voulu satisfaire une envie, un désir de vengeance, voyez, et il a vu que la personne, elle a tombé, elle a chuté. Elle était en bonne santé, maintenant elle est malade, elle ne peut plus travailler, la personne est dans des difficultés. Intérieurement, je suis fier. Ah, il ne fait plus son coq à terre, il ne fait plus le verre, il est moins content qu'avant. Mais maintenant, pense que quand tu fermes tes yeux, l'ange des azab, il vient prendre ton âme et dans le qabar, tu es dans un feu, dans un trou de l'enfer, et je te qiyamah, tu es ressuscité avec les koufars, avec les mouchriquins. Et lorsqu'il y aura le hisab, tu prends ton livre de compte de la main gauche, tu passes sur le pont Sirat, tu tombes dans le feu de l'enfer et tu y restes pour l'éternité. Est-ce que ça valait le fait de voir la personne triste? Est-ce que ça valait le coup de faire casser un couple ou de ramener l'harmonie dans mon couple en ayant recours à des pratiques haram? Ça, il faut faire bien attention. Beaucoup de gens ne prennent pas conscience qu'ils sont en train de vendre leur iman. Quand ils ont fait ça, c'est fini. Lorsqu'ils meurent, ils vont dans le jahannam direct. Parce qu'il a fait kouf sur la révélation de Muhammad. Parole, faqad kafara, kafara bima unzila Muhammad. Parce qu'on n'a pas dit que c'est un fasik, il a dit qu'il a fait kufr. Il a renié la révélation sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah et qu'Allah nous protège. Et lorsqu'on voit les difficultés, mes chers frères, lorsqu'on voit les difficultés qu'il y a de ce dunya, là on comprend bien la hikmah d'Allah. Car Allah est Rahman et Rahim. Logiquement, Allah ta'ala, il doit être bienveillant envers ses serviteurs. Mais lorsqu'Allah éprouve quelqu'un, c'est pour l'élever. La personne qui va être atteinte d'une maladie ou de la sorcellerie ou d'autre chose, cette personne est en train d'être élevée par Allah Ta'ala si elle fait preuve de patience. En même temps, je souffre, mais en même temps, mon grade est en train d'être élevé. En même temps, mes péchés sont en train d'être effacés. En même temps, mon daraja, ma place dans le paradis est en train d'augmenter. Et en même temps, mon ennemi qui me veut du mal, il est en train de rire, mais il est en train de s'enfoncer dans les plus bas degrés du Jahannam. Et le jour du Mahshar, je vais voir mon grade et je vais voir mon ennemi où est-ce qu'il est. Taïb, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on voit les difficultés du dunya, on se rend compte vraiment qu'Allah est Hakim, il est juste lorsque Allah Ta'ala a décidé qu'il y ait un jour un hisab. Lorsqu'on voit qu'Allah Ta'ala a décidé que le jour de la résurrection, chaque homme devra répondre de ses actions. Et lorsque quelqu'un fait du tort à son prochain, Allah Ta'ala appellera les protagonistes, celui qui a fait du tort, le zalim et le mazloum. Et Allah Ta'ala réglera les comptes. Là, on se rend compte que vraiment, il faut ce moment de la résurrection. Quand on voit la quantité de méchanceté qui est faite dans ce dunya, la quantité de personnes qui font du tort à leur prochain, on se dit que vraiment, la résurrection et les comptes, ça c'est quelque chose d'obligatoire. Il faut qu'Allah Ta'ala, il fasse le jugement. Et on sait qu'Allah dit que Allah, il a rendu le zulm, Allah Ta'ala, c'est comment le hadith, Allah Ta'ala a rendu le zulm haram sur lui-même, et il a rendu haram pour vous. Allah ne fait pas du tort aux gens, et Allah interdit aux gens de se faire du tort mutuellement. Et s'il y a quelqu'un qui a fait du tort à son prochain, qu'il se prépare à être devant le tribunal d'Allah, car Allah le jugera pour chaque mal, pour chaque difficulté qui a été faite à la personne d'en face. Que comprenne bien ça, que difficulté il y a, mais quand on est dans des moments difficiles, on se dit que de toute façon, même si dans ce dunya je ne trouve pas afia, mon problème ne se résout pas, là-haut Allah va juger ces gens. Là-haut, on verra la vérité et là-haut, Allah Ta'ala punira les gens qui ont fait du tort. Et là, on se rend compte vraiment qu'avec ces difficultés, il faut qu'il y ait un Jannat et un Jahannam. C'est pas qu'on dit que Dieu est amour et que tout le monde ira dans le paradis. C'est pas possible. Si Allah Ta'ala envoyait tout le monde dans le paradis, ça aurait été voul, na'oudou billah. Mais Allah a décidé que ceux qui étaient dans le droit chemin, qui ne faisaient pas du tort à leur prochain, eux, ils ont le Jannah. Et ceux qui ne faisaient pas la salat, qui ne faisaient pas l'ibadat, ou alors même qui le faisaient, peu importe, mais qui faisaient du tort à leur prochain, est-il normal qu'ils viennent avec nous dans le paradis et qu'ils ne payent pas pour le mal qu'ils nous ont fait? Là, wallah. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a créé le paradis et qu'Allah Ta'ala a créé l'enfer. Et lorsqu'on entend les bienfaits du paradis, on doit faire en sorte d'avoir ce désir d'y accéder, de faire les actions qui en mènent. Et lorsqu'on entend du Jahannam, bien sûr, on se dit qu'Allah nous en protège, on ne fait pas les péchés, mais en même temps, c'est un réconfort. Et c'est là où je veux en venir. C'est un réconfort. Si je me dis qu'il y a telle personne qui me fait du tort régulièrement, mais de toute façon, regarde Jahannam, comment c'est terrible. Ben, il va goûter là-haut, Inch'Allah. À moins qu'on ait un cœur rempli de mohabbat, qu'Allah lui donne la hidayat, ça, il faut faire. Mais puis, on peut dire, si Allah fait des hidayat, vous dites que là-haut, il va goûter de toute façon. Vous voyez, ça, c'est la justice d'Allah. Si tout le monde allait dans le paradis, comme dans certaines religions, Dieu est amour, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, c'est pas possible. Celui qui fait du mal, comment il va aller dans le paradis direct? Non, il faut qu'il paye. À moins que Allah nous convoque et qu'on fasse maf à cette personne, je dis, mais ça c'est autre chose. Mais ce qui est improbable, là-haut, on ne connaît plus la femme, madame, enfants, frères, ça n'a plus rien. Chacun regarde nafsi, nafsi. Si je peux prendre un hasana avec toi, j'aurai ta peau, mais je prendrai. Le jour de Qiyamah. Personne ne connaîtra son prochain. Yom ala yanfa'man ou ala banun. L'argent il ne sert plus, les enfants, la famille, personne ne se connaîtra plus. Donc on voit que laqad khalaqna al-insana fi kabad, ce dunya c'est une vie de lutte pour le travail, pour avoir son rosi, pour maintenir son iman, et c'est une vie remplie de difficultés. C'est une vie remplie de taklif, remplie de difficultés, mais là on voit que quelle est la sagesse d'Allah dans la résurrection, dans les comptes et dans la création du paradis et de l'enfer. Qu'Allah ta'ala tawfiq de comprendre ces quelques paroles, hein, et la prochaine fois, on va voir ce verset qu'on voulait commenter, mais on n'a pas pu. Ayahsabu an la yaqdira alayhi ahad, yaqul ahlaktu mala lubada, et puis les ni'mat, et puis ça aussi, ayahsabu an lam yarahu ahad, ça fait développer la taqwa Allah. Quelqu'un qui comprend ce verset, la taqwa va augmenter, et puis les ni'mat, ala naj'alu aynayn, wa lisana, wa shafatayn, qu'Allah donne un tawfiq encore de continuer à faire en sorte d'avoir une approche des paroles d'Allah, et qu'Allah il nous donne la compréhension de son livre, et que cela rende nos cœurs, et que nous soyons plus concentrés dans nos salats, et nous soyons plus aptes à obéir aux ordres d'Allah, et à nous éloigner des interdits, et propager ça à nos familles. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, jazakallah.